et sœurs. Bien. Alors, nous sommes le 14 juillet. Il y a cette victoire. Et aussi, ce que nous devons comprendre, c'est que les défilés militaires ou les défilés dans le monde, c'est une démonstration de force. À chaque défilé, on aligne une nouvelle technologie militaire. À chaque défilé militaire, on annonce une nouvelle stratégie. Je ne sais pas si vous connaissez la stratégie de ce matin pour l'armée française. Je vous l'ai dit tout simplement, c'est la force dans l'espace. C'est que maintenant, la guerre ne sera plus par terre. Ça sera tout là-haut, au travers des satellites, au travers de la télécommunication, au travers de tous les engins qui coiffent nos têtes à plus de 400 kilomètres. Alors, nous pouvons dire quelque part, les nations qui ont des armes puissantes peuvent quelque part se dire qu'ils sont tranquilles. Ils ont une confiance en leurs forces armées et ils se disent nos armées sont les plus forts. D'accord ? Et nous, chrétiens, nous allons dire aussi que notre Dieu est le plus fort. Et nous avons plusieurs traits qui désignent, qui parlent de notre Dieu comme un Dieu puissant. Il a des caractères. Le premier que nous allons souligner, nous le disons le premier tout simplement parce qu'il est capital pour nous, pour nos vies, c'est que nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour que nous pouvons lire dans 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, du verset 7 à 9. Et dans ces versets, le résumé tout simplement de ces versets, c'est que celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Mais comment pouvons-nous comprendre la profondeur de cet amour? Oui, Dieu n'aime pas seulement les chrétiens, comme nous pouvons le penser. Nous sommes des milliards sur la terre et Dieu a un plan pour chacun. Les gens vivent la même vie que nous et respirent le même oxygène que nous. Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne met pas de côté les pécheurs. Il aime tous ceux qui habitent la terre, qui sont ses créatures. Ici, il a créé la terre et le ciel. C'est par amour. Il a créé l'homme par amour. Et s'il a pensé pardonner mon péché, c'est par amour. Et en retour, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre ? Ce qu'il a fait pour moi. Nous pouvons dire que Seigneur, je t'aime. Nous pouvons faire nos prières en donnant tous les attributs de Dieu, tous les noms de Dieu, en français, en hébreu, en tout ce que vous voulez. Mais rendre ce que Dieu nous donne, c'est le rendre grand Dieu, lui donner toute la puissance. Toute la puissance, obéir à ce qu'il nous demande. C'est ça le rendre victorieux, le rendre roi. Oui, comme il est dit dans Sophonie, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plaie grande de joie. Il gardera le silence dans son amour et aura pour toi des transports d'allégresse, des projets d'allégresse et des tonnes d'allégresse. Et c'est là, cet amour, nous le savons tous, c'est vraiment manifesté à la croix avec le texte de Jean 3, 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle. » Oui, notre Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu. Notre Dieu est juste. C'est comme le psaume l'a dit, le psalmiste, 119 et 137 qui dit, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Oui, Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et dans chaque décision qu'il prend, dans chaque action qu'il fait, est juste appropriée. Il ne fait pas d'erreur. Il n'est pas injuste. Même si il nous arrive de ressentir les pécheurs prospérer, alors que nous qui les prions jour et nuit, nous sommes dans la disette et toujours en train de ramer, excusez-moi l'expression, mais Dieu est juste. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'a pas de favoris. Même si nous pensons, même les chrétiens n'en sortiront pas plus facilement que les autres. Tout le monde sera jugé selon les mêmes principes, selon les lois spirituelles de Dieu. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception des personnes. Et très souvent, nous sommes des êtres humains. Nous avons souvent une petite pensée de rejeter ceux qui ne croient pas encore au Seigneur ou des langages un peu plus tranchants en disant à les gens du monde ou les païens. Mais hélas, ce n'est pas à nous, c'est le Seigneur, le Dieu qui est juste. C'est à lui de juger. Personne ne pourra dire que le jugement qu'il reçoit est injuste. Oui, la justice impliquée à la ville aux villes de Sodome et Gomorre, quand Dieu demanda s'il pouvait avoir ne fût-ce que 10 personnes fidèles à lui dans ces villes, Dieu n'en trouva pas et sa sanction est tombée sur les 10 villes. Mais dans tout cela, nous devons savoir que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu pardonne. Le pardon de Dieu, ce n'est pas comme notre pardon. Notre pardon ressemble à la page qu'on tourne. Notre pardon ressemble à un cahier qu'on bascule une feuille derrière l'autre, où on garde le doigt sur la page où il y avait une faute beaucoup plus grave. Notre Dieu, il efface les tableaux. Et quand un tableau est effacé, on ne voit plus ce qu'il y avait dessus. C'est ça notre Dieu. Même si nous commençons à compter par rapport à la faute d'avant que vous avez pardonné déjà, que nous avons pardonné déjà. Mais Dieu recommence toujours à zéro. Oui, notre Dieu pardonne plusieurs fois. Mais est-ce que cela nous invite à renouveler nos fautes? Je pense que non. Nous devons apprendre à ne pas revenir sur les mêmes erreurs. Nous devons apprendre à éviter le péché. Oui, nous devons apprendre par-dessus tout à pardonner les autres, les frères et sœurs qui vivent avec nous. Certes, ça c'est un sujet beaucoup plus vaste sur le pardon de Dieu et le pardon des hommes, et savoir que c'est très complexe, c'est une étude assez vaste sur le pardon. Nous aurons l'occasion un jour d'en parler plus largement. Mais de savoir tout simplement en résumé que quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, nous recommençons à zéro. Et surtout de savoir que si Dieu pouvait compter nos péchés, personne ne pouvait vivre. Oui, parce qu'il est amour et qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Et c'est de là d'ailleurs que, comme nous le disions tout à l'heure, c'est de là où naissent les questionnements de notre côté de savoir. Mais lui, il fait tant de bêtises, sa vie est déréglée. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur le bénit, ça c'est selon nous, et qu'il a toujours des choses en abondance. Mais le Seigneur ne compte pas nos péchés. Il ne traite pas selon nos péchés. Nous devons savoir aussi que beaucoup des décisions de Dieu viennent de lui. Lui seul, il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de nous consulter. Oui, et dans nos fautes, dans nos erreurs, Dieu est patient. Il nous regarde tomber, il nous relève, il prend du temps avec nous. Il prend du temps avec sa création que nous sommes. Et c'est pour cela que nous voyons que malgré parfois des erreurs de la part d'un tyran ou comme on dit d'un dictateur, on dit mais le Seigneur est où? Pourquoi le Seigneur n'agit pas? Le Seigneur sait, c'est lui seul qui connaît les moments, car sa patience est immense. Et aussi savoir que le désir de Dieu est que tout le monde arrive à le connaître et que les gens aient le temps pour pouvoir le découvrir. C'est ça la patience de Dieu. Dieu a soutenu des personnes qui étaient des grands brigands, qui étaient des malfaiteurs, des gens que nous pourrions dire, lui, il est perdu. Il est perdu pour nous, mais il n'est pas perdu pour Dieu. Car Dieu va agir dans sa vie. Et cette personne va propager la bonne nouvelle. Plus que nous qui sommes chrétiens il y a très longtemps, parce que nous sommes timides, Dieu va l'utiliser. C'est pour cela que nous devons adopter. Nous devons, je dirais, copier la patience de Dieu. Quand nous parlons à une personne, s'il n'est pas converti tout de suite, nous faisons comme ceux qui passent de porte en porte. Il y en a qui tournent, ils s'en vont parce qu'ils sont presque fâchés, parce que vous n'arrivez pas à adhérer à son mouvement. Le Seigneur est patient. Et nous voulons, nous aussi, imiter cette patience de savoir que Dieu agit en son temps. Et c'est de la même manière quand nous prions au Seigneur, il nous arrive de sentir comme s'il ne nous écoute pas, parce que nous voulons la réponse maintenant et tout de suite. Nous voulons démontrer la puissance de Dieu ou nous voulons démontrer notre puissance? Là, c'est une question aussi. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et dans la même ligne, dira, lent à la colère et plein de bonté. Et de là, nous glissons dans la colère de Dieu. Il nous arrive d'être devant les éléments de la nature quand ils se déchaînent. Quand en ce moment, il y a la tempête tropicale Barry qui sévisse en Amérique, quand des foudres tombent et font mal aux gens, quand la force de la nature et même le peuple qui ne sont pas croyants, ils disent que c'est Dieu qui agit. Ça, c'est la nature qui s'exprime. Mais alors, la colère des dieux, ce n'est pas parfois ce que nous voyons dans les éléments, mais la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, nous l'avons dit, Dieu est amour, il est patient, il est juste. Il est aussi un Dieu de colère. Sa colère n'est pas envers les hommes, oui, nous le savons, mais envers le péché. Son amour pour les hommes est tellement profond que par la force des choses, il est tout ce qui nuit à sa création, donc qui est le péché. Et nous avons cet libre arbitre de pouvoir décider de le suivre ou de servir nos péchés. Dieu sait comment le péché nous détruit. Dieu sait comment nous sommes tentés. Oui. Dieu est puissant. Mais pourquoi nous ressentons aussi comme si Dieu était si loin par moments? Oui, notre Dieu est immuable et éternel. Notre Dieu ne change pas. Nous avons chanté la grandeur de Dieu, qu'il était notre roi, mais face à ces dieux. C'est surtout ma préoccupation de ce matin, de savoir que notre Dieu ne peut être grand que par nous. Je recommence. Si notre Dieu est grand, c'est à nous de faire voir qu'il est grand. Comment? Dans l'histoire de David et Goliath, qui est dans Samuel, chapitre 17, verset 41, nous voyons que David, un tout jeune, a vaincu Goliath, un grand militaire. Et David qui dit que c'est par la force de son Seigneur, de Dieu, qu'il a pu vaincre Goliath. Mais avant cela, tous les adultes, toutes les grandes personnes cherchaient comment combattre Goliath. Ils réfléchissaient. Goliath sortait, il partait vers ses troupes, il les narguait, il venait, il repartait. Ils étaient là, ils le regardaient, ils avaient peur. Mais David, c'est par Dieu qu'il a pu vaincre Goliath. Et cette victoire a fait de Dieu que les gens, tout le peuple, ont vu que Dieu était grand par cette victoire. Ce qui signifie tout simplement que parfois nous sommes prisonniers de nous-mêmes et par nos raisonnements. Nous aurons pu prendre aussi l'exemple de la multiplication de pain, quand Dieu dit qu'il va faire asseoir une foule, qu'il va les nourrir. Les disciples qui ont été avec Christ, ils ont bien vu Christ faire des miracles, mais ils étaient perdus. Ils commençaient à se gratter la tête. Comment on va faire pour qu'ils puissent manger? Je ne sais pas, il faut aller acheter à manger. On n'avait rien. Que 5 poissons et du pain. Voilà, Christ qui fait un miracle. Il fait un miracle, il fait nourrir tout le monde et il en a même resté des miettes. Tout simplement parce que les gens étaient emprisonnés dans leur raisonnement. Comment on va faire? Comment on va? Je ne sais pas si ça ne nous arrive pas d'être toujours dans comment on va faire, dans des tracasseries, dans des préoccupations. Comment je peux faire? Ah, je connais quelqu'un là-bas qui. Non. À chaque difficulté, c'est comme si Dieu s'éloignait, ou nous l'éloignons de nous. Si notre Dieu est grand, à chaque moment, à chaque détresse, nous devons d'abord l'appeler. Mais malheureusement, nous, ce n'est pas le cas. Quand nous sommes en détresse, nous sommes perdus. Notre Dieu est grand. Et aussi, il nous arrive de nous mettre à la place de notre Dieu. C'est dans des siècles passés, quand on parle de l'Inquisition, quand l'Église voulait nettoyer tout ce qui était hérésie, des choses, des vérités qui contredisaient la parole de Dieu, alors il y a eu des morts. Beaucoup de gens sont morts parce qu'on les soupçonnait de ceci ou cela. Les gens étaient morts et subissaient des morts atroces. Des gens étaient brûlés pendant qu'ils chantaient parfois des louanges. C'était le moment. Mais alors, les gens de l'Église pensaient faire le travail de Dieu. Les gens pensaient faire des travaux qui purifiaient l'Église. Malheureusement, ils avaient pris la place de Dieu. Et ils n'ont pas consulté Dieu. ils auraient pu voir que Dieu était amour et que Dieu détestait les péchés et pas les pécheurs. Ils auraient pu procéder autrement. Oui, nous avons toutes ces religions qui ne pensent qu'à tuer ceux qui ne croient pas. Pensant faire le travail de Dieu, Dieu n'a pas besoin. Si j'ose pas dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. À plusieurs reprises, il dira, même si les hommes se taisaient, les pierres vont chanter sa louange. Ce n'est pas pour qu'il n'existe pas un groupe de louanges, non. Mais c'est pour dire tout simplement Dieu est grand et que nous devons comprendre, ressentir la grandeur de Dieu par nos témoignages. Quand un brigand, celui qui tuait nuit et jour, vient à se convertir et commence à propager la bonne nouvelle, les non-croyants se disent oui, ils ont un Dieu puissant. Nous, on ne pensait plus. Nous, on était découragés, on avait déposé les armes. Mais si c'est ce Dieu-là qui a rendu cet enfant comme ça, c'est qu'il est grand. C'est de là que nous pouvons dire que la grandeur de Dieu dépend de notre témoignage. Si nous sommes inchangés malgré la connaissance de cette parole, c'est comme si nous prenons un produit pharmaceutique qui ne guérit, qui ne soigne pas. À la fin, on finit par dire, il ne faut plus le prendre, ça ne vaut pas la peine. Mais si notre Dieu, nous voulons rendre grand notre Dieu, la prise des contacts, je dirais, quand on se nourrit de sa parole, cela doit nous changer. Et quand cela nous change, quand cela nous soigne, les gens du dehors verront, depuis qu'il va à l'église, depuis qu'il va dans ces lieux, il a changé. Il est devenu différent, il est moins agressif, il est moins comme il était avant. Ah, ils ont quelque chose là-bas. Oui, c'est quelque chose, c'est notre Dieu qui est grand. Et c'est ça que nous devons savoir, que ça ne vaut pas la peine de le dire, mais le mieux, c'est de le faire pour rendre témoignage de ces grands dieux. Vous avez vu, j'ai mis amour tout au début et j'ai mis Dieu Tout-Puissant à la fin. Mais c'est pour dire tout simplement que en Dieu, tout est amour. Et en nous aussi, tout part de l'amour. Oui, de l'amour du prochain. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes, pour que Dieu puisse prendre de la hauteur. On dira toujours que, ah, vous avez eu quel prof, dans quel cours, ah, vous avez, ah oui, ah, lui c'était un grand professeur, lui, ah ouais, lui c'est. Mais ce n'est pas le professeur qui passe les examens pour les élèves, mais tout le monde dira, c'est un bon professeur, ah, il est bon. Oui, mais si les élèves sont des cancres, ça va être compliqué. Mais puisque les élèves travaillent, ils ont des bons résultats, ça élève les professeurs. On dit, oh ben de toutes les façons, ils sont passés par lui, ce n'est que normal. Nous, nous devons élever notre Dieu par nos comportements, par la pratique de cette parole qu'il nous a donnée. Voilà, si aujourd'hui, 14 juillet, c'est le défilé qui donne confiance à la population qu'on est protégé, qu'on peut dormir sur nos deux oreilles. Nous, chrétiens, nous avons notre Dieu qui est tout-puissant et qui nous permet aussi de dormir sur nos deux oreilles et qu'en cas de situation, nous pouvons l'évoquer. Et c'est lui qui agira à notre place. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Ce n'est pas par notre prière, comme nous disons, des forces, notre prière où nous hurlons à Dieu, où nous sommes prêts à lui tirer la robe. Non, c'est parce que nous le mettons devant. Nous pensons que c'est lui qui va agir. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te dire pardon. Pardon car il nous arrive de penser que par nous-mêmes nous pouvons arriver à beaucoup. Oui, nous sommes que des créatures. Nous sommes les œuvres de tes mains, Seigneur. Prends toute la place dans nos vies. Que ton nom soit exaucé. Que ton nom soit au-dessus de tout nom. Oui, comme ta parole dit, que tous genoux fléchissent. En ton seul nom, Père, gloire te soit rendue en ce moment. En Jésus-Christ. Amen.
Merci Afonso pour ses encouragements et ses exhortations. Alors, ce matin, il n'y avait que peu ou pas d'annonce, ou presque. Je me dois quand même de vous faire un court rappel. Alors, je ne suis pas sûr qu'on aura la diapo, puisque ce sont les mêmes que la semaine précédente, période estivale, hein. Moi, de choses nouvelles qui s'amoncellent. Juste de vous rappeler que samedi prochain, samedi 20 juillet, à partir de 10h, pour tous ceux qui le veulent et qui le peuvent, bien sûr, est occasion aussi de venir servir le Seigneur en ravivant un peu les couleurs ou la propreté de ce grand bâtiment, et puis de son extérieur aussi. Donc, grande journée de nettoyage annuel, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui le peuvent et le veulent, venez dès 10h, donc ce samedi prochain. Ce sera l'occasion voilà, de nettoyer de fond en comble les endroits qu'on n'a pas trop l'habitude et qu'on délaisse. Donc les toiles d'araignée qui restent dans les coins cachés, je ne sais quoi. Hein. Ou les mégots qui traînent devant la cour, parce qu'il y en a aussi. Bien de gens viennent parfois en semaine fumer ici, en tout cas à l'extérieur. Donc voilà, si vous le pouvez, donnez-vous rendez-vous ici dès 10h. Ceux qui désirent rester un peu plus que la matinée, entendez bien qu'il y a possibilité aussi de rester manger ensemble, sur le mode un peu de l'agape. Je sais que notre sœur Mérinda, qui chapeaute cette journée de nettoyage, a déjà prévu aussi de cuisiner certaines choses pour que tous puissent manger. Mais voilà, si vous en avez à cœur, venez. Vous ferez aussi dans la mesure de vos moyens. Si vous êtes grand, vous irez chercher les choses en haut. Si vous êtes petit, vous irez chercher les choses en bas. Et si vous êtes un peu fatigué, ben on vous donnera des choses qui seront moins pénibles que les autres. Je n'exagère pas. On essaiera bien sûr de s'adapter à tous. Donc entendez bien, voilà, samedi 20 juillet, grande journée de nettoyage. Si vous ne pouvons être nombreux, cela sera d'autant plus joyeux et fraternel et d'autant plus facile et rapide aussi. Et notez aussi, pour ceux qui le pourront, là je sais que ça sera parfois plus compliqué et difficile puisque c'est un lundi. Le lundi qui suivra, donc le lundi 22 juillet. Alors, j'aurai l'occasion encore, ou on aura l'occasion de vous le redire la semaine prochaine. Mais le lundi qui suivra sera l'occasion de nettoyer cette belle moquette. Enfin, j'exagère quand je dis belle moquette. Cette vieille moquette, parfois tachée, parfois ravivée parce qu'on a ajouté des carreaux tout neufs et puis d'autres qui sont un peu tout vieillots, donc... Elle est un peu étonnante. Voilà, c'est une occasion unique de pouvoir la nettoyer, on le fait une fois l'an. Donc si quelques-uns peuvent être là, le but étant de pouvoir déplacer les bancs, les mettre d'un côté, qu'on nettoie une partie de la moquette, et une fois fait, on les redéplace, on nettoie notre moquette, et c'est fini. Les bancs seront mis peut-être un peu plus tard dans la semaine. Mais voilà, on aura besoin là de quelques volontaires pour le samedi, et certainement à partir de la matinée. Je n'ai pas l'horaire, puisque je ne sais pas quand sera là la machine. Je m'arrête là pour les annonces. J'avais juste, je crois, une dernière info quand même, que je ne l'oublie pas. Pour tous ceux qui, aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas inscrits pour le week-end, puisque nous y serons tous, je l'imagine, je vous invite dès la fin du culte, à vous diriger vers Pauline qui se tiendra près de la sortie, si ce n'est juste au dehors, face à la sortie, pour noter au moins votre vœu d'inscription. Et je vous rappelle, cela est proposé à tous. Si vous n'en avez pas la facilité et les moyens, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. L'Église le prendra à sa charge. Si vous souhaitez justement honorer cela, vous pouvez le faire librement. Mais s'il vous plaît, pensez à vous inscrire, parce qu'à partir du 18 août, c'est pas aujourd'hui, mais ça va venir vite. Nous sommes en vacances, en période de vacances. À partir du 18 août, les inscriptions seront finies. Donc n'attendez pas la dernière heure, parce qu'on s'imagine parfois que c'est déjà trop tard. Donc voilà, je m'arrête là pour ces annonces. J'espère que vous aviez pris la semaine dernière cette petite feuille. Elle ne changera pas de l'été. Alors, il y en a parfois quelques-unes qui traînent sur le banc. On retrouve ces mêmes infos. Et il y a aussi les dates de présence de l'équipe pastorale, que ce soit de moi ou de mes chers collègues et anciens, qui de toute façon, sur tout l'été, ensemble, assureront toujours une présence pastorale pour les besoins, pour les urgences. Et quant à moi, de vous le dire, ce n'est pas tout de suite, mais je m'absenterai à partir du 26 juillet. Donc je suis encore là dimanche prochain avec vous. Mais après, je m'absenterai quelque temps. Les infos étant closes, j'aimerais vous inviter maintenant, et je vais surtout commencer par inviter le chœur, à reprendre sa place derrière les micros avec les musiciens, car nous allons finir ce temps de culte par un chant. Ah oui, excuse-moi Germina, c'est vrai, heureusement que tu me fais signe. Le chœur va quand même s'avancer. Germina, suite à son retour, voulait nous faire un petit témoignage, un court partage. C'est bien cela, je t'invite à venir.
Ah oui, t'es à la plage ?
Je l'ai laissé malheureusement là-bas. Bonjour à tous. Je voudrais juste partager un petit moment avec vous. Vous savez que j'étais rentrée en Guadeloupe parce que je voulais voir ma mère, je voulais passer un peu de temps avec ma mère qui était très malade. Le Seigneur lui a fait grâce, elle va beaucoup mieux par rapport à ces derniers mois. C'est pas fini, elle est toujours à l'hôpital parce qu'on a dû lui amputer la moitié d'un pied, du dernier pied qui lui restait. Et puis ça va être encore assez long parce que c'est difficile comme cicatrisation à faire et c'est très douloureux. Donc elle appréhende beaucoup les pansements, les jours après le pansement, les heures après les pansements, parce que c'est très très douloureux. Et puis aussi, on lui fait aussi passer par des moments, on lui projette de l'oxygène qui favorise la circulation et puis la cicatrisation pour que ça aille un peu plus vite, mais c'est très douloureux. Et par contre, je voudrais remercier toute l'Église pour toutes vos prières, pour tout le soutien que vous nous avez apporté depuis le mois de mars, à la mort de mon frère et après aussi la maladie de maman, à mon départ précipité en Guadeloupe. On a pu passer des moments ensemble, on a pu passer vraiment des temps très forts, même si c'était pénible, mais on était tous ensemble. Parce que maman, elle a eu un paquet d'enfants. Donc, on est à 9 filles. On reste à 9 filles et un garçon, parce que 3 sont partis. Donc, ça fait une bonne petite tribu pour la soutenir, pour la porter, pour l'aider et pour prier pour elle. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes vos prières, pour votre soutien. Et je remercie aussi, parce que j'ai ma petite fille qui est de passage. Et ça me fait beaucoup de bien. Alors, soyez bénis dans le nom du Seigneur et essayons de continuer toujours à nous soutenir mutuellement, à nous porter mutuellement, parce que c'est aussi une grâce que le Seigneur nous accorde d'être une très bonne famille. Et je vous souhaite bonnes vacances à tous ceux qui doivent partir et puis bon courage à ceux qui doivent rester. Moi, je suis revenue, mais je ne dis plus rien. Merci.
Merci Germina et merci pour cette invitation, exhortation. Nous penserons bien sûr à toi, à ta famille et notamment à ta maman. Voilà, mais que maintenant que ce temps de culte s'achève, que l'on puisse se lever pour glorifier une dernière fois ensemble avant de repartir sur ce champ de mission que Dieu nous offre, là où il nous invite à être témoins. Mais glorifions-le ensemble par les paroles de ce chant.
Tu me donnes, ton nom me donne, Seigneur.
Tu me donnes.
Croyons-le, force et courage.
Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité.
Nous sommes sauvés, le nom au son duquel tout genou fléchit, gloire à ton nom, alléluia,
gloire à ton merveilleux
nom,
Jésus,
gloire
à ton nom, gloire à ton précieux nom.
Notre Seigneur vous envoie encore vers ce monde tout au long de cette semaine, qu'il vous bénisse, que dans vos actes et vos paroles et même aussi dans vos silences, vous puissiez être son digne témoin, digne de son amour et le représentant de son Fils, ici même, parmi tous ceux aussi qui ne le connaissent pas. Amen. Voilà, bonne semaine à vous tous.